Voilà. Donc, scansion latine, scansion, les langues anciennes dans le titre. Là, quand il m'a fallu donner un titre, ben, c'était fort tard la nuit, alors tout à coup, j'ai pensé à ça, ce petit schéma. Qui d'entre vous a fait du grec ou du latin? Ah, quand même, beaucoup de gens. C'est bien. Donc, ce schéma vous dit quelque chose? Non. Non. D'accord. Ce schéma, si vous regardez bien, le trait et puis les deux brèves, c'est comme un doigt, un os long et deux petits os. Long, brève, brève. Ce qu'on dit pomme, pomme, pomme. Et c'est le pied de base de la scansion la plus fréquente en grec et en latin. Donc, le doigt en grec, c'est dactylos, d'où le mot dactyle. Et comme on en met six les uns après les autres, ça fait un hexamètre dactylique. C'est le vers le plus fréquemment enseigné, et la plupart des gens qui ont fait un peu de poésie et ce qu'on appelle un peu de scansion dans le cadre de leur cours de grec et de latin ont dû se frotter à un moment donné ou un autre à l'hexamètre dactylique. Voilà, donc aujourd'hui on va dire quelques petits mots sur l'hexamètre dactylique. Alors ça a l'air peut-être un peu barbare si je vous le dis comme ça, mais j'espère que ça ne sera pas. Donc, vous êtes trop nombreux. Moi, ce que je voulais faire au début, c'est vous demander vos souvenirs de scansion. Si on dit scansion, ce que ça évoque en vous. On n'a pas le temps. Vous êtes trop nombreux. Alors, je vais seulement vous relater deux témoignages auprès d'élèves. Une élève est une dame d'une trentaine d'années maintenant. Donc, ses souvenirs remontent à loin. Quand j'ai demandé l'autre jour, pour toi, la scansion, qu'est-ce que ça évoque? Elle me dit, oh là là, attends, c'était compliqué, il fallait mettre des barres entre les mots, et puis des trucs dessus, et puis il fallait parler, et moi, j'ai jamais su faire. Et ça m'a fait perdre des points. Alors, je me suis dit, ben ça, c'est un souvenir qui est agréable. Et une autre, alors, beaucoup plus jeune, m'a dit avoir été confrontée au problème de scansion plusieurs fois dans sa vie d'écolière. Donc elle a été jusqu'à la matu, l'autre aussi. Et la première fois, on nous a dit que les vers latins se disaient d'une façon particulière. Alors, il fallait frapper, c'était... Vous connaissez tous le premier vers d'Énéide ? Arma virum, que cano, troie, qui primus aboris. Puis elle n'a pas très bien compris à quoi ça servait, qu'elle se disait, c'est bien pour s'endormir. Deuxième fois qu'elle a rencontré la scansion latine, c'était... un niveau bien plus élevé, ce que vous appelez le gymnase en canton de Vaud, le collège dans le canton de Genève, et où on lui a dit, alors, il y a ce schéma, celui-là, qui se répète six fois, sachant que les deux brèves peuvent être remplacées par une longue, il faut compter, et puis il y a des tas de petites règles qui vont dire si une syllabe est longue ou brève. Une fois que tu as posé tout ce schéma, eh bien, ça va te servir parce que certaines syllabes, vous savez, le A à la fin de des substantifs, la déclinaison en A, ça peut être le nominatif ou l'ablatif. Alors, si c'est l'ablatif, c'est long, si c'est le nominatif, c'est court, donc ça va t'aider pour la traduction. Ah, c'est dit, c'est quand même amusant, cette chose aussi compliquée qui a été mise en place pour traduire. Alors qu'au fond, un poète, quand il écrit, ne pense pas forcément qu'il va être traduit. Donc, ça lui semblait étonnant, mais bon, ils ont fait comme ça. Et la dernière année de son apprentissage latin, donc la dernière année avant la matu, elle a changé d'enseignant. Et cet enseignant leur a dit, oui, alors c'est très bien, tout ça c'est en place, les longues, les brèves, les calculs et tout, en fait il manque une chose, c'est que le latin était une langue parlée, prononcée, avec des accents inhérents à chaque mot. Alors ça c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps dans l'enseignement, c'est que le latin, il y avait des accents. Alors c'est difficile pour des langues, pour les francophones, parce que c'est vrai que le français est une langue qui a relativement peu d'accents. Les accents par patois ou bien par canton, hein, n'accentuent pas la même chose. Bon bien, selon bon bien. Mais les langues, l'italien, le portugais, l'espagnol, l'allemand, ce sont les langues qui ont des accents. En français, on n'a pas. Donc c'est difficile pour les francophones de penser au fait que le latin s'accentue. L'accent fait partie du sens d'une langue. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. La plupart des méthodes de latin, Alors, Joseph, c'est allusion au fait que ça m'arrive de travailler aussi pour les méthodes de latin. Il est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant dans les méthodes de latin parce que la tradition francophone est extrêmement opposée à ça. Alors, un certain nombre de méthodes ont quelques petites pages au début, on saute allègrement parce que de toute façon on n'a pas le temps, et après on ne revient jamais sur ce sujet-là. Alors, il y a des règles d'accentuation. Ah, voilà, mon ordinateur propose de me connecter à une île. Je ne veux pas. Voilà. Donc, il y a l'accentuation latine, finalement, est relativement simple. Je vous ai mis là quelques règles. C'est les règles essentielles et les seules règles, finalement. Si vous avez un mot de deux syllabes, c'est la première syllabe qui porte l'accent. Pour les francophones, c'est pas facile. Dans un mot de plus de deux syllabes, l'accent est sur l'avant-dernière, si elle est longue, ou ritare. Sur l'avant-avant-dernière, si l'avant-dernière est brève, ou ritare. Voilà. Certains mots d'une seule syllabe, essentiellement les prépositions et les conjonctions, ne sont pas accentués. Et il y a les fameux mots grammaticaux dont on ne sait pas trop comment ils sont accentués. Et quand vous avez un de ces termes qu'on qualifie d'enclitique, les termes enclitiques, ce sont les mots qui se collent au mot précédent, un petit peu comme des parasites. Ils lui tirent son énergie et du coup, ils lui tirent l'accent vers l'arrière. Donc même un mot qui serait accentué sur une syllabe plus haut est accentué du coup sur sa dernière syllabe. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. C'est un pli à prendre comme dans n'importe quelle langue parlée. Quand vous apprenez l'allemand, quand vous apprenez l'italien, on essaye de vous apprendre aussi l'accent et la mélodie. Donc, voilà pour l'accentuation. Alors, vous me direz, mais on est là pour parler d'expansion, et voilà qu'on nous parle d'accentuation. C'est pas logique. La scansion, le tin, en fait, est à la lecture ou à l'oralisation de l'examen dactylique, ce que le métronome est à la musique. Quand vous commencez à apprendre, vous avez un métronome, bien vous frappez la mesure du pied, mais une fois que vous présentez votre morceau de musique, vous n'avez plus le métronome, vous n'avez plus le pied qui frappe. On est d'accord? Donc, dans la lecture, ou la récitation, en tout cas, l'oralisation d'un vers latin ou grec, on ne devrait pas entendre. Donc, si on dit arma virum vecano, vous voyez à quel point c'est artificiel. C'est encore le moment de l'apprentissage, mais pas le moment de la performance, si vous voulez. Alors, ça, c'était un élément pour l'attention. À côté de l'accent, il y a quelque chose d'autre qui est absolument essentiel. Si vous enfilez comme ça un certain nombre de vers, vous risquez quoi ? Vous risquez la syncope si vous ne respirez pas. Il faut absolument respirer. Alors, on a ces beaux mots techniques, césure, ce qui coupe le flux des mots. Alors, on fait la distinction entre césure et coupe, ça c'est un petit peu technique. La césure, qui peut se placer à divers endroits du vers, se place toujours après une longue. Donc là, vous avez les six pieds, pour faire les six mètres, pour faire l'examen dactylique. Et vous avez donc chaque fois la longue et le brève, et la césure se place toujours après une longue. Alors, comme elle ne coupe pas un mot, par exemple ici, elle ne pourrait pas se mettre, parce que même si c'est un enclitique, on a quand même un mot complet. Ici, elle ne pourrait pas se mettre non plus, parce qu'on a un mot complet. Par contre, elle peut se mettre là, elle peut se mettre là. Donc on en a souvent plusieurs de ces césures. Une principale et des secondaires. Et puis, on parle encore de coupe qui, elle, se situe après une brève. Donc, par exemple, là, vous avez une coupe. Et si ça, c'était un mot complet et pas une préposition, ce serait une coupe importante. Elle s'appellerait bucolique et elle voudrait dire quelque chose. Voilà. Donc, elle voudrait dire quelque chose. Ces coupes et ces césures ont une raison d'être là où elles sont. Puisque, non seulement elles vous évitent de tomber en syncope, elles vous permettent de respirer. Mais si vous respirez, c'est que vous mettez un appui sur le mot après lequel vous vous taisez. Et d'accord, c'est déjà la même chose. On dit quelque chose d'important et on se tait. Alors, Les césures veulent dire quelque chose. Maintenant, je reviens à cette histoire d'accent et de la langue qui marque chaque mètre. Parce que là, il y a un jeu aussi qui va s'installer. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ces deux paragraphes. Là où vous avez, ça va être démontré tout de suite, là où vous avez... Ah, il y a de nouveau l'université qui veut que je me connaisse. On reprend le premier vers. J'ai souligné les syllabes accentuées et vous voyez la langue qui commence chaque mètre. Alors là, l'accentuation et premier mètre, c'est la même chose. Ici aussi, ici, c'est pas le cas. Vous voyez que la syllabe est accentuée alors qu'on n'est pas sur le premier temps. Et là, on va avoir petit effet de presque de boiterie comme ça. Idem ici. Et là, ensuite, on retombe. Alors ça, c'est un petit peu décalé, on sent le PowerPoint. Vous voyez qu'après, on retombe sur coïncidence. Alors, quand, bon, petit terme technique, quand ça coïncide, on parle de homodynie. Donc, même puissance. Et quand ça ne correspond pas, on parle d'hétérodynie. C'était les deux petits paragraphes sur la diapositive précédente. D'accord ? Donc, si on lit ce vers-là en respectant les accents, ça fait « arma verum qui cano troie qui primus aboris ». Vous voyez ? Vous entendez la différence ? « Arma verum qui cano troie qui primus aboris ». J'exagère un tout petit peu. Et puis, arma virum qui cano troie qui primus aboris. Vous avez entendu qu'il y a deux mots qui sont mis en évidence. Et ce sont lesquels? C'est je chante et trois. Donc, l'épopée et le sujet principal quand même. L'origine, trois. D'ailleurs, regardez que la césure principale, elle est là, entre cano et troie. Donc, les deux termes de cano et troie sont mis en évidence par l'hétérodynie et par la césure. Ensuite, il y a une autre césure entre troie et qui. Et là, c'est au récitant, au lecteur, de choisir quelle césure il veut mettre en avant. Là, il y a évidemment aussi l'interprétation que chacun est amené à faire, comme dans un morceau de musique. Donc, l'ascension, à quoi elle sert? Parce que quand je demandais à mes deux témoins à quoi elle avait servi, pour elle, l'une m'avait répondu pour avoir une meilleure note à l'oral, et l'autre pour traduire. Alors, celle qui avait appris avec l'ascension m'avait dit, ah, mais tu sais, il y a aussi des césures, et puis... Alors, l'ascension et les accents permettent de mettre en évidence des mots, et donc aussi de comprendre le texte avant de traduire, de voir déjà des réseaux qui se mettent en place. Et c'est exactement à cela que sert l'ascension avec les accents et de voir le jeu entre les deux, c'est des mises en évidence que chaque poète fait sur son texte, des mises en évidence de mots, de réseaux de mots, si vous avez des rythmes avec des accents précis qui se répètent à certaines distances de vers, des faits décrits, tout à coup on a un élément qui saute aux yeux, des émotions, il y a des passages connus dans l'Odyssée, vous savez, le dernier vers, l'avant-dernier pied, pardon, qui est presque toujours intactile, le cinquième pied, des fois c'est inspondé. Et là, tout à coup, on a un ralentissement de rythme absolument remarquable, et on a, très souvent, ces vers sont mis en évidence de façon extrêmement sensible. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd si on ne fait que lire à voix dans sa tête. D'ailleurs, vous savez que dans l'Antiquité, on lisait toujours à voix haute. Et si on fait ces petits calculs longs, brefs, et puis là, je tape avec les pieds par terre. Alors, comment enseigner? Eh bien, je pense que l'élément vraiment essentiel, c'est d'insister sur le côté oral de ces langues. Alors là, on a parlé que de latin, aussi pour une question de temps. Vous savez qu'en grec, les accents sont marqués, c'est déjà beaucoup plus facile de les lire. Malgré tout, la plupart des gens ne les lisent pas, ce que je trouve extrêmement dommage. Donc vraiment, insister sur les accents des mots. Habituer les élèves à lire avec les accents. Les quantités suivent. Ça, c'est quelque chose de vraiment remarquable. On les habitue à lire avec les accents, et petit à petit, les quantités suivent et se mettent en place. Alors souvent, les enseignants me disent « Ah, mais tu te rends pas compte, nous, on n'ose pas, et puis on ne sait pas comment prononcer, ça c'est une autre question, et puis on risque de se tromper, etc. » Alors, il y a des sites merveilleux qui ont fait tout le travail pour vous. Il y a celui-là, que je fournis volontiers, alors vous pouvez noter là, vous rentrez dans Google, scansion, le verbe latin, et puis il propose tout, il propose la scansion non accentuée, et là vous voyez, il marque les accents aussi. Donc on peut s'entraîner à ça. Et ce que je propose, comme toujours quand on utilise un marquage typographique comme béquille, c'est que, alors au début on donne le marquage typographique complet, accent, et métrique. Alors là, c'est un petit peu faible, mais vous voyez peut-être quand même. Donc on fait lire avec ça. On y va, on y va, on y va. Et puis, après, on ne met plus que les accents. Là, on gras. Et on remarque que petit à petit, eh ben, les gens y vont. Et après, on leur demande, on peut très bien leur demander, vous écoutez, et quelqu'un le fait, et quels sont les mots qui ont attiré votre attention, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est un passage extrêmement intéressant à vivre et à faire vivre aux élèves. Alors, je m'étais dit qu'on allait tous y aller, etc., parce que je pense avoir 2-3 personnes devant moi. Et ce n'est pas le cas. Et le temps tourne. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Et voilà.